Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, dans lesquels nous allons nous intéresser cette semaine au réseau de transport en commun du Grand Nouméa. Où en est sa reconstruction et quels sont les défis qui sont devant lui? Nous allons en parler avec les cinq invités qui sont sur ce plateau. Naya Watéou, qui est la présidente du SMTU, Clément Simutoga, qui est le directeur transport chez CarSud, Francisco Sionnet, qui en est responsable exploitation. Également avec nous Serge Castello, qui est directeur de la sûreté du groupe Transdev, spécialisé dans le secteur des mobilités, et Marie-Emmanuelle Huillot, qui est la directrice économie mixte et assistance technique du groupe. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Serge Castello, un mot sur Transdev.
Transdev, c'est un groupe de transport mondial, un opérateur, un intégrateur de différentes mobilités. Nous sommes implantés dans 19 pays. Nous opérons des trains, des tramways, des bus, des cars, ainsi que du câble, du transport par câble. Voilà, on est un groupe en plein développement et nous sommes surtout très heureux d'être en accompagnement de CarSud à Nouméa.
Alors, on va évidemment voir les défis qui attendent à la reconstruction du transport en commun du Grand Nouméa. Je pense qu'on peut bien employer le mot de reconstruction. Naya Watéou, rappelez qu'aujourd'hui, il fonctionne à nouveau. On ne va pas dire en mode dégradé, mais en mode restreint, hein, c'est bien ça?
Oui, en mode restreint. Il refonctionne depuis la rentrée de cette année. C'était une volonté engagée par et le SMTU et les différentes collectivités qui y sont associées. Et puis, bien évidemment, avec l'opérateur CarSud qui avait répondu à ce nouvel appel d'offres pour pouvoir opérer cette mission de transport. Un réseau qui est foncièrement différent de celui que les usagers et que les Calédoniens pouvaient connaître avant 13 mai, puisqu'on passe de 30 lignes à 8 lignes, des horaires qui sont aussi modifiés, mais toujours cette volonté de pouvoir apporter aux populations qui en ont le plus besoin dans Nouméa et le Grand Nouméa, cette mobilité qui est essentielle pour pouvoir continuer à aller travailler, continuer à aller se faire soigner, continuer à aller à l'école et pouvoir permettre aux gens de se déplacer dans des conditions acceptable.
Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux développements qui sont prévus dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Est-ce que des lignes vont être prolongées, vont pouvoir ouvrir? Est-ce que le réseau va reprendre petit à petit, non pas sa taille initiale ou sa taille d'avant émeute, mais en tout cas se redéployer un petit peu?
Il faut être réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les capacités financières pour pouvoir assumer un réseau qui puisse être celui qu'il était auparavant, ni même, et ça c'est une réalité qu'il faut aussi entendre, ni même pouvoir aujourd'hui créer des nouvelles lignes. L'enjeu, c'est de pouvoir adapter ce réseau existant de 8 lignes, de pouvoir l'optimiser au maximum. Et quand cela est possible, c'est de gagner du temps pour pouvoir le transposer sur du kilomètre et pouvoir permettre ce qui a été fait notamment sur Païta, par exemple, où au début de la cartographie, le bus s'arrêtait au Fraisier. Aujourd'hui, il est possible de traverser le village de Païta. C'est vraiment des petites adaptations. Et puis, l'autre enjeu pour nous, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble de nos équipements et notamment cette voie réservé pour pouvoir pleinement utiliser un équipement qu'aujourd'hui on continue de financer malgré les conditions budgétaires qui sont contraintes, mais de pouvoir gagner du temps aussi sur le transport.
Alors Clément Simutoga et Francisco Sionnet, comment CarSud a été obligé de s'adapter, parce qu'il a fallu passer vous aussi par une période compliquée, hein, avec des bus qui ne circulaient plus du tout. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que la société a repris un rythme à peu près normal ou est-ce que vous en êtes? Clément Simutoga.
Mais aujourd'hui, on a dû se réadapter au nouveau réseau. Ce qui a été assez compliqué, c'est vrai qu'avec la nouvelle offre, où on fonctionne vraiment en heure de pointe, toute l'organisation a été revue. À côté de ça, la diminution nous a obligés en fait, à réduire les effectifs de moitié. Donc aujourd'hui, on est sur des effectifs beaucoup plus contraints et aussi un rythme de travail totalement différent. Aujourd'hui, nous, sur notre activité, c'est vraiment autre chose parce qu'on n'a plus le contact avec nos salariés comme avant, puisque du coup, la journée, on n'a pas d'activité et on travaille sur les heures de pointe. Donc, en termes de fatigue et d'organisation de vie personnelle aussi pour nos salariés, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour relever le défi. On souhaite après voilà, que le réseau puisse à nouveau s'agrandir et ça sera vraiment avec la fréquentation, les recettes et toute la partie financière qui est problématique.
Francisco Sionnet.
Oui, aujourd'hui, je pense que CarSud, c'est un peu le fruit d'une résilience pour maintenir un service public et que on a dû s'adapter, réorganiser avec les conducteurs. On travaille plus toute la journée, comme Clément l'a évoqué, c'est plutôt dans les heures de pointe et aussi demander à tous les salariés de faire des efforts. et d'être polyvalent sur les ressources qu'on n'a plus actuellement. C'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable effort fait par nos équipes en interne pour pouvoir répondre aux besoins d'être beaucoup plus agile et plus polyvalent.
Alors Serge Castello, ce n'est pas la première fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez venu il y a quelques années, avant cette période d'émeute. Vous connaissiez le réseau de transport en commun du Grand Nouméa. Comment vous avez constaté les choses à votre retour ?
Tout d'abord, je voudrais souligner l'implication et l'engagement des personnels de CarSud, puisqu'ils ont consenti des efforts qui méritent d'être salués. Et il y a, comme le dit Francisco, il y a une résilience exceptionnelle et une capacité à s'adapter à un nouveau contexte que je souhaite saluer. Alors le réseau, bien sûr, il a une taille qui est bien différente aujourd'hui. C'est ma troisième mission ici à Nouméa. J'ai porté un projet avec l'équipe de CarSud et son PDG, le projet de la création d'une brigade de sécurisation des transports en commun. Cette brigade a vu le jour au mois d'avril 2024. Donc c'est une concrétisation que je souhaite saluer aussi. Je souhaite d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier la direction territoriale de la police nationale pour la création de cette unité qui est spécialisée dans la sûreté des transports. Aujourd'hui, elle est composée d'un brigadier-chef, de deux gardiens de la paix et de cinq policiers adjoints. J'ai pu hier au pôle d'échange Moselle voir comment cette unité travaillait et son efficacité qui est vraiment impressionnante. Ce dispositif est en outre hybride puisque vous avez donc des policiers nationaux avec aussi des agents de sécurité privée. Et c'est ce qui fait la force de ce dispositif de sûreté. Il y a encore, bien sûr, des points à améliorer, mais je tiens vraiment, encore une fois, à remercier les autorités de police d'avoir créé cette brigade. C'est une brigade qui est aussi exceptionnelle par la nature de sa compétence, puisqu'elle développe son activité sur la partie de compétence de la police nationale, mais elle va aussi en zone gendarmerie, jusqu'à Doumbéa. Donc c'est assez rare de voir ce type de brigade travailler à la fois en zone compétence police et en zone compétence gendarmerie.
Alors au-delà de la question de la sécurité qui est toujours importante et qui est une préoccupation évidemment pour les passagers, mais on entend moins parler ces derniers jours de caillassage ou d'autres faits contre les bus, et peut-être qu'ils ne sont pas mis en avant, mais au-delà, on va revenir sur la question de la sécurité, mais Marie-Emmanuelle Huilot, vous, quel constat vous dressez ? Vous découvrez, vous, le réseau de Nouvelle-Calédonie ?
Alors, je le découvre visuellement, oui. Voilà, puisque en fait, ça fait deux ans maintenant que je travaille avec les équipes de CarSud en apportant de l'assistance technique, donc avant les émeutes et après les émeutes. Et je voudrais rejoindre Serge, c'est-à-dire qu'il y a il y a une qualité des équipes qui est absolument remarquable. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir cette qualité des équipes au service du service public et du transport. Et la résilience est là, l'outil de travail est préservé. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de volonté et d'implication, justement, pour aller de l'avant. Et à la fois maintenir un service minimum, voire restreint, comme on le dit aujourd'hui, qui est nécessaire à la vie de l'île. Et puis d'aller de l'avant. Mmh. Et justement, je trouve que la période est finalement très intéressante pour reconstruire et voir les choses certainement différemment. Et de façon beaucoup plus globale et inclusive, et tout en apportant le service nécessaire aux populations.
Voilà, parce que c'est vrai que le transport en commun, ça va au-delà du simple transport. Ça permet évidemment, ça touche les questions d'emploi, ça touche les questions de cohésion sociale. On y reviendra dans un instant. Serge Castello, vous avez parlé de la sécurité qui s'est plutôt améliorée parce qu'il y a des dispositifs mis en place. Est-ce que vous le ressentez, vous, les acteurs, au jour le jour, quand je parlais d'un peu moins d'incidents, je voyais que Naya Ouattéou bouger un peu les yeux, c'est-à-dire qu'on ne connaît peut-être pas tout, mais est-ce que vous avez l'impression que les choses, Clément Simutogas, sont quand même améliorées ?
Alors, en termes de chiffres, oui. Après, c'est difficilement analysable, comme on n'est plus sur le même réseau. Une des nouveautés sur le réseau, c'est qu'on finit beaucoup plus tôt. Avant, les incivilités étaient principalement après 18h, de 18h à 19h30. Aujourd'hui, on n'a plus de bus qui circulent après 18h. Donc, dans les faits, il y en a moins en termes de nombre. Après, c'est compliqué de comparer les deux situations. Il y en aura toujours trop. On sait que ça sera jamais, on sera jamais sur du zéro incivilité. Après, voilà, aujourd'hui, il y a quand même aussi la brigade dédiée pour les transports et beaucoup de forces de l'ordre qui sont dans les quartiers sensibles sur lesquels on avait des caillassages ou des alcoolisations. Donc, je dirais qu'on est sur un chiffre assez normal.
Et c'est normal. Serge Castello.
Je voulais insister sur le point suivant. Il y a certes les faits de délinquance qu'on peut répertorier, mais il y a surtout le sentiment de sécurité sur lequel, bien évidemment, il faut agir, puisque la fréquentation est fonction aussi du sentiment de sécurité que peuvent éprouver les usagers du service public. Donc la présence humaine, hein, c'est un facteur clé du sentiment de sécurité. Donc cette brigade de sécurisation des transports en commun, ces agents de sécurité privée, la formation que nous avons apportée aux conducteurs comme aux contrôleurs de titre, toutes ces actions permettent, je pense, hein, aux usagers du service de voyager en toute tranquillité, pas avoir peur d'une agression. Je pense notamment aux femmes, hein, qui sont des utilisatrices des transports publics. On a souvent parlé de la protection de ces femmes, hein, contre les incivilités, contre le harcèlement à caractère sexiste. Donc les personnels ont été formés à toutes ces questions. On l'a fait avant l'insurrection, hein, mais je pense que ça, c'est dans la tête de chacun, des conducteurs, des contrôleurs, des agents de sécurité privée. Et bien sûr, maintenant, avec l'appui de la brigade de sécurisation des transports en commun, je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie d'amélioration.
Naya Watéou.
Comme l'ont dit et Serge et Clément, on est sur une voie d'amélioration. Moi, j'ai toujours du mal avec cette forme de banalisation et de normalisation que je peux voir sur certains commentaires sur les réseaux, lorsqu'effectivement, on dit qu'il y a des caillassages, et il y en a encore eu un hier sur Montravel. On ne peut pas accepter ça, et encore moins dans les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, parce que ce n'est pas juste s'attaquer à un bus. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a même pas d'idée derrière ou de volonté. C'est on prend un caillou, on le balance, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a derrière. Et sur les agents en premier lieu et les conducteurs qui sont les premiers en situation de danger, sur les usagers qui peuvent être présents dans ces bus-là, et puis derrière, le coût que ça peut représenter. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'avoir à changer des pare-brises. Je sais que c'est très matériel et factuel, ce que je dis, mais aujourd'hui, on est en train de compter offrant le franc, ce qu'on est capable de pouvoir conserver pour pouvoir derrière le répercuter sur une baisse du prix du ticket, par exemple. J'entends beaucoup de gens qui nous demandent, au travers de cette mission de service public, d'avoir une tarification qui soit plus raisonnable. Bah, en fait, tant qu'on devra payer des pare-brises à 120 000 francs le pare-brise, bah, on ne pourra pas répercuter ce prix-là sur une baisse du ticket. On a une brigade des transports qui a été mise en place, et je salue le travail qui a été fait. C'est une véritable nécessité aujourd'hui de pouvoir permettre, et ça faisait partie des conditions de reprise lorsqu'on a entamé cette réflexion, c'est de se dire de pouvoir faire transporter nos usagers dans les meilleures conditions possibles, et en premier lieu celui de la sécurité. Mais cette brigade, elle ne pourra pas tout faire non plus. Et il y a une vraie réflexion qui doit être engagée. Alors, on le fait au travers des institutions, on le fait au travers des collectivités, au travers des forces de l'ordre, des agents eux-mêmes. Mais en premier lieu, ce sont les habitants des quartiers concernés qui doivent aussi se réveiller. Parce que ce sont eux que l'on pénalise et qui sont pénalisés lorsqu'à un moment donné, le bus ne passe plus aux mêmes heures. Lorsqu'à un moment donné, il y a des débrayages qui se font, parce que derrière, c'est la question de la sécurité. Ce sont les premiers à être impactés par ces incivilités. Mais je pense que ce nouveau souffle, aussi cette nouvelle prise en compte de ce que ça peut représenter, elle ne pourra venir que de l'intérieur. Et je pense à des quartiers, mais je pense aussi à Saint-Louis, parce que c'est aujourd'hui les points noirs que l'on a. Et on ne pourra pas résoudre cette situation si tout le monde n'y met pas aussi du sien.
Alors, une brigade qui est en place, des chauffeurs qui ont été formés. Comment ça se passe, Francisco Sionnet, du côté des chauffeurs? Dans quel état d'esprit sont-ils?
Dans le métier de conducteur de bus, hein, dans le service public, la vraie difficulté, c'est un beau métier, tu travailles dans le service public, la vraie métier que rencontre un conducteur de bus, ce sont les agressions, les incivilités, c'est la partie sombre après de ce métier, mais que ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que la police des transports, la création de la police des transports, ça a été une demande qui a été portée par CarSud il y a à peu près 15 ans. Et ça a été mis en place juste avant les événements, et que c'est rassurant pour les conducteurs et aussi pour les usagers. Il faut rappeler, c'est que même les conducteurs, c'est des hommes, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille aussi, ils ont la difficulté de venir au travail. Je me rappelle, j'étais là il y a 10-15 ans, c'est de venir au travail avec la boule au ventre. On n'avait pas tous les dispositifs qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, malgré même la situation économique dans le contexte actuel, mais les dispositifs sont là, c'est plus rassurant pour nos conducteurs. Les choses sont mises en place et ça permet de venir au travail plus serein. En sachant quand même il y a pas de risque zéro. Mais néanmoins, ils sont là, ils continuent à maintenir le service public.
On va rappeler, Serge Castello, que la Calédonie n'est pas un cas à part. Hein, sur ces questions-là, on a beaucoup d'exemples en métropole. Il y a eu récemment un cas d'un chauffeur, je crois que c'était à Toulouse, agressé par un passager et il a failli être viré de sa boîte.
C'est encore une autre question.
C'était un cas particulier, on est d'accord.
C'est un cas particulier. Et puis, c'est pas Transdev, c'est une autre
compagnie. Ah, mais je mettais personne en cause, hein, rassurez-vous.
Non, je voulais aussi rappeler que cette brigade de sécurisation des transports en commun, ainsi que les agents de sécurité privée qui opèrent sur le réseau, participe à l'incitation à la validation. Puisque j'ai pu constater hier, de visu, que, évidemment, de nombreux jeunes essayaient de risquer, hein, et qu'ils étaient empêchés, puisqu'il y avait un dispositif conséquent sur le pôle d'échange de Moselle. Donc, vous voyez, c'est un tout. Sentiment de sécurité, incitation à la validation, protection des conducteurs, protection des contrôleurs. Vous voyez qu'il y a un ensemble de missions qui concourent au bon fonctionnement du service public. Parce que je rappelle, c'est quand même le mot-clé, il s'agit d'un service public. Donc un service qui est là pour tout le monde.
Alors, Marie-Emmanuelle Huillot, parlons un peu aussi finances, parce que ce sont des sociétés qui fonctionnent avec des financements propres et des financements publics. Dans quel état vous jugez qu'aujourd'hui le SMTU, on sait qu'il y a un gros travail qui a été fait avec les communes, de rationalisation des choses. Il y a eu quand même les émeutes qui ont un peu perturbé la reprise. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation financière du SMTU et la manière dont il s'est réorganisé ?
Alors le sujet financier dans les transports publics, c'est toujours très délicat parce que vous savez que c'est un service public qui ne se finance pas par lui-même, hein, puisqu'il y a des sujets de tarification derrière qui permettent justement à tout un chacun de pouvoir utiliser les biens mis en commun. Et donc il y a des financements et des subventions complémentaires qui interviennent. Donc c'est toujours très délicat. C'est un sujet aussi qui anime fortement la métropole en ce moment, puisqu'il y a le plan Ambition France Transport qui réfléchit justement à la façon dont on peut améliorer le financement du transport public. Alors c'est clair que le fonctionnement dans l'Hexagone et dans l'île n'est pas tout à fait le même, et qu'il y a certainement aussi aujourd'hui l'opportunité de réfléchir à la façon dont on peut améliorer ou voir les choses différemment pour pouvoir reprendre le chemin d'un financement plus serein. Mais sur ce plan de comment je vois les choses, c'est plus à la collectivité de s'exprimer sur ces enjeux financiers.
Alors passons la parole à la collectivité. Yawet, et où ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui, alors au titre du SMTU, hein, mais un héritage quand même qui est conséquent. Et une dette aujourd'hui qui est portée par le SMTU, qui avoisine quand même les 22-27 milliards si on compte les intérêts, pour des investissements qui ont été faits, qui répondaient à une volonté à un moment donné d'avoir un réseau qui soit moderne, mais peut-être avec le recul un peu trop ambitieux. Et pourtant, cette dette, elle est là. Il faut pouvoir, la financer. Ce financement, il repose sur la province sud à hauteur de 50% et les 50 autres pourcents répartis sur les collectivités et les communes que sont Nouméa, Dimbéa, Païta et Mondor. La situation aujourd'hui, et elle n'aura échappé à personne, ne permet plus et à la province et à l'ensemble de ces communes de pouvoir supporter un engagement de 4 milliards de francs annuels sur l'ancien réseau et derrière 27 milliards de dettes qu'il faut pouvoir rembourser jusqu'en 2046. Donc l'héritage qu'on a aujourd'hui, c'est un réseau qui est diminué, c'est des infrastructures qu'il faut revoir et pourtant cette nécessité de devoir opérer une mission de service public. Et sur le transport en mission de service public, le SMTU n'est pas là pour gagner de l'argent. Il est là pour moins en perdre. en fait. Et c'est tout l'intérêt d'avoir dans nos partenariats et au travers de l'actionnaire CarSud, ce portage qui est fait entre une collectivité et un privé, parce que derrière vient s'intégrer cette notion de gestion du risque, de prise du risque. Et on est pleinement dedans. Aujourd'hui, je pense qu'en plus, la situation dans laquelle se trouve le SMTU, CarSud et le réseau en lui-même, peut-être... malgré tout ce qu'on peut vivre, aussi un exemple de résilience et des choses que l'on peut aussi évoquer avec d'autres départements, d'autres régions, d'autres réseaux, et être aussi force de proposition sur ce qui peut être fait différemment. Mmh. Toujours est-il qu'effectivement, ce partenariat est nécessaire aujourd'hui. Ça nécessite aussi peut-être de revoir le modèle, et c'est même pas peut-être, c'est très certainement. C'est tout ce qu'on est en train d'engager aujourd'hui, ce qui permet aussi d'envisager le transport sous une autre manière, peut-être un peu plus diversifié. C'est tout le travail qu'on essaie d'engager aujourd'hui. On a eu pas mal de visites, parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse impliquer le gouvernement et toutes les structures aujourd'hui qui s'intéressent à la question du transport. En Calédonie, voilà, on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps sans avion, sans bateau, sans bus. Ça n'est pas possible. Et pourtant, il faut pouvoir envisager la suite, mais l'envisager différemment, de manière plus pragmatique et en ayant toujours en tête cette notion de viabilité économique.
Sur ce point-là, Marie-Emmanuelle Huliot, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je crois que Naya a la bonne façon de voir les choses et d'appréhender le sujet, c'est-à-dire que quand on parle de mobilité du quotidien, il n'y a pas que le transport en commun ou la voiture, il y a les deux, mais il y a plus aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dimension où il faut réfléchir de façon très globale et embrasser toutes les formes de mobilité. La mobilité souche, c'est la marche. Donc on commence d'abord par marcher. Il y a le vélo aussi qui arrive sur la scène de l'espace public qu'il faut aussi pouvoir encourager. En fait, la mobilité, c'est une organisation très globale de l'ensemble des modes dans des espaces publics, spatiaux, géographiques. Moi, ce qui m'a aussi assez frappée sur l'île, c'est que finalement, on a une organisation des mobilités qui est très terrestre et aérienne, et que la mer n'a pas été considérée, alors que c'est un élément majeur.
C'est un serpent de mer, si je peux me permettre.
Voilà. et je pense qu'il y a, voilà, il y a des choses aussi à intégrer en termes d'évolution et de dimensionnement des différents modes. Enfin, organiser la mobilité, c'est prendre en compte tout le contexte et toute l'offre modale qu'on a et les besoins des populations, bien évidemment.
Serge Castello.
Oui, rajouter une chose qui, pour Transdev, est très, très important. Nous avons été solidaires de CarSud, puisque, bien sûr, il y a eu des diminutions des effectifs. Et Transdev, dans l'Hexagone, a accueilli une quinzaine de salariés. On est très fiers de l'avoir fait, parce que c'est pour nous très important de soutenir les personnels de CarSud, compte tenu de la crise extrêmement grave qui s'est produite sur le Caillou. Voilà, je voulais le dire. Aujourd'hui, tous ces personnels qu'on a reclassés ont obtenu leur FIMO. Hein. C'est une certification obligatoire pour conduire des véhicules de transport en commun dans l'Hexagone. On va suivre leur carrière hein, au sein des réseaux qui les ont accueillis et on fait tout pour les aider à trouver leur place hein, dans les réseaux où ils ont été affectés. Enfin, voilà, je voulais insister sur ce point.
C'est bien de l'avoir dit. Effectivement, alors, les utilisateurs hein, du réseau CarSud, SMTU, ne sont pas tous au courant des enjeux ni financiers, ni de développement de la compagnie et du réseau. Quels sont les retours que vous avez de la part des usagers Clément Simutoga et Francisco Sionnet? Est-ce qu'ils trouvent que c'est trop cher? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas aller assez loin? Est-ce qu'ils trouvent que les horaires ne sont pas assez extensibles? Est-ce qu'ils comprennent aussi l'organisation qui a été rendue nécessaire après les émeutes?
Alors, aujourd'hui, nous, sur le fonctionnement, on n'a pas récupéré toute la clientèle qu'on avait auparavant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les usagers des bus, je pense, sont usagers parce qu'on répond à leurs besoins. Donc, aujourd'hui, les usagers sont plutôt un retour assez positif, même si on a eu quand même cet aspect tarif qui a été quand même assez... conflictuel au début, mais qui est une réalité en fait de tout ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On a plutôt des retours des non-usagers, c'est ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas le réseau parce que ça correspond plus à leurs besoins. Le réseau, il a été dimensionné pour en fait vraiment répondre à ce qu'on conçoit dans un transport en commun, c'est d'avoir beaucoup de monde. Donc on est sur des heures de pointe qui correspondent vraiment aux travailleurs et aux scolaires. Et c'est vrai que les gens qui travaillent en car le matin, l'après-midi, qui terminent le soir après 20h, aujourd'hui, on ne peut plus les transporter. Donc c'est vrai, plutôt des usagers qu'on a perdus, qui sont devenus non-usagers, qui nous remontent beaucoup de frustration de ne plus avoir le réseau Taneo pour les transporter. Parce qu'aujourd'hui, malgré ces augmentations, on reste quand même le transport le moins cher sur l'agglomération. Mmh. Donc les usagers sont plutôt satisfaits.
Francisco Sionnet, vous avez aussi des retours, notamment avec les chauffeurs.
Oui, oui.
Parce qu'ils sont en première ligne, forcément, quand les usagers râlent. Hein, c'est souvent vers eux que les doléances se tournent.
Le conducteur, c'est le premier, c'est lui qui est en première ligne. Et qu'effectivement, ce qui est positif, c'est que le réseau est repris pour les usagers. Ça, c'est important. Après, il y a le prix, effectivement. La difficulté, c'est que, par rapport au contexte actuel économique, les pertes d'emploi, les milliers de pertes d'emploi, souvent ça a été mal compris, la hausse de ces prix, avec quand on regarde actuellement toute la perte de pouvoir d'achat que la plupart des salariés et que les usagers forcément de Taneo, ce sont les populations les plus vulnérables. Mais je pense qu'ils sont là, ils sont confiants parce qu'ils pensent que c'est une période de transaction et qu'il faut relancer. On parlait tout à l'heure de développer le transport en commun. C'est vrai, effectivement, c'est une chance pour nous d'avoir Transdev en partenaire parce qu'il est riche de leur expérience et de repenser à l'échelle du pays. Maintenant, il faut y aller, il faut repenser à l'échelle du pays le transport, enfin toute la mobilité. Mm. Et juste pour retenir, c'est important, c'est vrai, dans le cadre du plan social qu'il y a eu, il y a quand même eu chez Carsud la moitié qui ont perdu leur emploi. Et aussi la solidarité nationale qu'on a eue par rapport à notre partenaire Transdev, qui a pu reclasser des dizaines de familles, des gens qui ont pris quand même l'initiative de pouvoir partir en France, de tourner une page et d'essayer de s'installer. Ça a été très difficile, c'était un moment très difficile des salariés. Et grâce à notre partenaire avec Transdev, on a pu permettre à faire bénéficier certaines familles qui, d'une part, pouvaient avoir un rapprochement familial et d'autres, c'est l'aventure. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait, c'est important. C'est là qu'on voit qu'on a besoin de la solidarité nationale. L'engagement de Transdev a été présent pour nous.
Naya, où êtes-vous ?
C'est tout l'enjeu sur ce partenariat public-privé, d'avoir effectivement une entreprise qui est en capacité et dans des situations difficiles comme celles qu'ont pu rencontrer les employés de Carsud à un moment donné, d'avoir cette possibilité de pouvoir se retrouver. On n'est pas sur des gens qui ont quitté volontairement la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas eu le choix que de partir pour pouvoir continuer à assumer leurs responsabilités de parents, de chefs de famille. Et aujourd'hui, des Calédoniens qui continuent de garder le lien avec la Calédonie au travers de ce réseau Transdev, mais puis surtout qui sont en train d'acquérir des compétences dont on aura besoin au moment où le réseau repartira sous de meilleurs auspices. Mais c'est vrai que je voudrais revenir sur la question, et je comprends, et on a aussi des remontées très nettes hein, sur le réseau Taneo et au niveau des équipes du SMTU, sur l'impact qu'a pu avoir la question du prix, la hausse du prix. Comme l'a dit Clément, c'est une réalité qui s'est imposée à tous, et encore une fois, aujourd'hui, même sur cette tarification, la collectivité, les institutions en paient la moitié. Mais ça fera partie aussi des discussions qu'on devra avoir à engager sur le fait de savoir comment est-ce qu'on adapte cette grille tarifaire, comment est-ce qu'on peut aller capter aujourd'hui des clients, des usagers qui ont besoin d'avoir accès au transport, mais qui ne l'utilisent peut-être pas sur la même fréquence que quelqu'un qui a besoin de le prendre le matin, le soir, 5 jours par semaine. Ça fait aussi, et ça laisse place à l'initiative du privé, derrière, avec de nouvelles structures qui se montent.
De nouveaux opérateurs, éventuellement.
Oui, voilà. Et moi, je ne suis pas bloquée là-dessus. Je considère qu'à partir du moment où le service public n'est pas en capacité d'aller, il ne faut pas qu'il bloque non plus l'initiative du privé. Maintenant, il faut qu'elle soit encadrée, qu'elle soit réglée. Ça permet aussi de voir, au travers des prestations qui sont proposées, qu'effectivement, le transport en commun reste aujourd'hui le transport qui est le moins cher.
Merci beaucoup à tous les cinq d'être... Six, il y en a un qui n'a pas parlé, mais d'être venus sur les plateaux de ces Jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu. On rappelle donc 15 juillet, une petite extension, une petite nouveauté.
Oui, 15 juillet, sur le secteur Rivière-Salée, le Néobus circulera à nouveau sur sa voie réservée, voie dédiée. Donc voilà, une petite avancée aussi, parce qu'on va gagner du temps, et puis surtout, on va utiliser cette voie qui est faite pour qu'on puisse pouvoir l'utiliser.